Salut à tous et bienvenue sur Archéo Ciné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. C'est Bruce au micro et avec moi il y a Blood. Comment ça va, Blood?
Très bien, et toi?
Bah génial. Et puis aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit film, façon de parler, en noir et blanc. On essaye de deviner avec le générique. Alors voilà, c'est le train sifflera trois fois. Le train sifflera trois fois High Noon en VO, un western américain de Fred Zinman, sorti en 1952. Alors le truc marrant, encore une fois, maintenant on ne trouve plus trop ça avec les films récents, mais ils avaient retraduit une bande française pour la chanson, et il existe aussi la même intro en VO que je trouve 10 fois mieux. On va se l'écouter, hein, Blood?
C'est parti.
Carrément mieux, non? Ah, ça fait plus, ça fait, ça nous met plus dans l'ambiance directement, quoi. Non, tu trouves pas?
Oui, mais en plus, je me rappelle pas de l'avoir entendu dans le film en anglais.
Ah non, parce que faut mettre, c'est à toi de sélectionner la VO.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre les deux en français.
Non, pas à l'époque. Non, à l'époque, t'avais. Quand c'est sorti au cinéma, ils se sont tapés la VF. Point. C'est nous qui avons la chance d'avoir les bandes son en VO, VF, etc. Et on a le luxe de choisir, mais à l'époque, ils ne l'avaient pas. Donc, vas-y, présente-nous ces petites perles. Parce que c'est un des premiers westerns, quand même. C'est un must du western.
Alors, en plus, je ne l'avais jamais vu, ce film. Donc, Alors donc, c'est un scénario de Carl Foreman. Donc, c'est d'après une nouvelle d'un magazine Story The Teenster de John W. Cunningham. La photographie, c'est Floyd Crosby. Le film dure que 1h25.
Ouais, mais bon, ça va.
Bah, oui, c'est une bonne durée, hein, pour un ancien film comme ça. Je n'ai jamais vu de film très long.
Non, la société de prod, c'est Stanley Kramer Productions. Bon, voilà, quoi dire d'autre. Noir et blanc.
Oui, noir et blanc.
Et la musique qu'on entend, qui est récursive tout au long du film, hein, il n'y a qu'une seule chanson. C'est Dimitri Tiomkin. Do not forsake me, my darling. C'est ça qu'on entend. Ce qu'ils ont traduit en français à chaque fois. Mais sinon, quoi dire d'autre après attends, on va s'écouter un petit truc.
On voit.
Il sera à l'heure, le train de midi?
Oh oui. Tout au moins, jusqu'à présent, il est à l'heure, comme de coutume. Monsieur Pierce. Comment allez-vous, Monsieur Miller? Monsieur Pierce, Monsieur Colby.
Ouais, on sent que le gars, il est en train de faire un petit peu dans son froc, comme on peut dire. Bon, sinon, après, le film a été tourné assez rapidement, hein, en 28 jours. Et la plupart du temps, Friends in Man, il dépassait pas les 3 prises par scène. Donc, on peut dire que c'est du rapide. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu du côté des acteurs?
Alors, du côté des acteurs, donc en premier, pour le rôle principal, c'était pas sûr que ça soit, enfin, c'était pas que c'était pas sûr, mais en prétendant, il y avait soit Gregory Peck, Marlon Brando, Montgomery Clift ou Kirk Douglas. Donc, c'était vraiment éparpillé, quoi, pour le choix. Puis finalement, c'est Gary Cooper qui est
Voilà.
le... Gary Cooper, donc, qu'on peut voir dans L'Homme de l'Ouest, dans Veracruz, un super western aussi, La Colline des Potences, donc Gary Cooper qui joue le shérif Wilken, il y a Grace Kelly dans le film aussi. Tu voulais peut-être mettre un extrait, non?
Allez, ça va nous donner envie de le regarder, bien que nous on l'a déjà vu.
Monsieur Kane, un télégramme pour vous. Oh, c'est terrible, quelle histoire! Ils ont libéré Frank Miller.
Qu'y a-t-il,
Bill? C'est incroyable. Ça fait 8 jours. Et ils nous avertissent aujourd'hui. Et il y a autre chose. Max Miller est devant la gare avec Jim Pierce et Jack Colby. Et ils ont parlé du train de midi.
Le train de midi?
Et oui. Parce qu'on le verra plus tard. On va pas tout divulguer, mais on en parlera. Donc du coup on disait oui Gary Cooper, donc on en a parlé. Grace Kelly, tu l'as dit aussi. Alors Amy Fowler Kane, c'est ça?
Exact.
Elle joue ce personnage. Donc et tu nous avais dit ouais Grace Kelly dans quel film on la voyait?
Dans Fenêtre sur cour, Le crime était presque parfait, mais aussi dans La main au collet.
Oui. On a aussi Lloyd Bridges, hein, qui joue le rôle de Harvey Pell, et on l'a vu dans Nord et Sud. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Hot Shots 2. Et c'est le père de
Jeff Bridges.
Yes. Qu'on peut voir, on peut les voir tous les deux tourner dans le même film,
dans
Blown Away. Avec Tommy Lee Jones, c'est un super film. Et pour la petite histoire, en fait, Lloyd Bridges, quand tu le vois et quand tu connais ses mimiques qu'il a dans Hot Shots, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Oui, là, il a déjà les mêmes mimiques, quoi. Là,
j'étais bordel. Quand j'ai regardé le film hier, je me suis dit, salut Bob.
Qui c'est qu'on a aussi de marquant? On a aussi Ian McDonald. Bon, il nous a quitté. La plupart, hein, nous ont quitté parce que vu la date du film, et la plupart ils sont nés dans les années 10, voire 20. Donc lui, il nous a quitté à 63 ans, en 78. Il joue le rôle de Frank Miller. Hein, Frank Miller, lui, il a fait beaucoup de westerns à son actif. Qu'est-ce qu'il a fait comme western?
Montana de Ray Enric, 50, avec Errol Flynn.
Ouais.
Taza, fils de Cochise, de Douglas Sirk, en 54, avec Rock Hudson.
Ouais, voilà. On a ensuite Lee Van Cleef. Alors lui, c'est pareil aussi, c'est un super acteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Lee Van Cleef?
Alors donc, on le voit dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone en 66. Et pour quelques dollars de plus, toujours de Sergio Leone en 65. Dans New York 1997 de John Carpenter en 81. Le Dernier Jour de la Colère en 67. Sabata, alors je pense que c'est une série. Hein, donc en
c'est une trilogie, c'est une trilogie.
70, 71. Captain Apache en 71. Le Grand Duel en 72. Mais souvent dans des western spaghetti, finalement.
Ouais, tout ça, c'est que des western spaghetti. C'est des Western Spaghetti. Et New York 97 aussi, il y a Jeff Bridges dedans.
Voilà, c'est justement ce que je voulais dire. Ouais.
Oui. On a qui encore comme les membres de la bande qui veulent liquider le shérif. On a Cheboulet. Lui, il nous a quitté en 2003 à 82 ans. Il incarne Ben Miller. Il a tourné pas mal de westerns entre 50 et 90. Et il est à l'origine du cri Willem.
C'est quoi ce cri? Je ne connais pas.
Ben, tu verras, je vais t'expliquer. Le cri Willem, il a été enregistré dans le film Les Aventures du Capitaine Wyatt, un film de 1951. Et le cri sera utilisé par la Warner Bros. Dans plusieurs de ses films. Et il a été utilisé également dans Star Wars, Indiana Jones. Il a été appelé ainsi par Ben Burtt. Ben Burtt, qui est le sound designer de Star Wars. Et qu'est-ce que le cri Willem? Eh ben, tu vas le découvrir et tu vas me dire, ah ouais, c'est ça. Et voilà, ça te dit rien ce cri?
Vaguement, mais j'arrive pas à retrouver qu'il y a ça dans ces films.
Ah ouais, tu l'entends. Quand tu tapes cri Willem sur Google et que ça te sort tous les extraits où il y a ce cri-là, tu fais, ah ouais, d'accord, ok.
Donc dans des films, ils ont collé ce son-là, quoi, finalement.
Exactement. Et donc, apparemment, ils ont retrouvé à l'origine qui avait enregistré ce cri, et c'est Cheboulet, voilà. Et puis, pour finir, on a Robert G. Walk, qui lui a quitté en 89 à 74 ans. Il joue le rôle de Jim Pierce. Et il a joué dans quel film, Blaude?
Il a joué dans 20 000 lieues sous les mers de Richard Fletcher en 54 avec Kirk Douglas.
On le verra celui-là.
Aussi, en 60. Les Moissons du Ciel en 78 et dans Spartacus en 60.
Ouais, toujours avec Kirk Douglas. Et les sept mercenaires, ouais, ils jouent de mémoire, je crois qu'ils jouent. Ils jouent Wallace dans les sept mercenaires. Je sais pas, moi ça, enfin, pour ceux qui l'ont eu, si ça leur parle, ils voient qui c'est. Donc du coup, écoute, on va s'écouter un petit truc.
Eh bien, c'est ce qu'on dit, mais.
Salut Albert.
Tu peux compter sur moi, ça tu le sais, hein?
Oui, je m'en doutais.
Bill, tu as réussi à rendre cette ville habitable pour les femmes et les enfants. Miller ni n'importe qui ne troublera la paix acquise.
Il faudrait que tous pensent comme toi.
Tous en pensent autant. As-tu déjà beaucoup de gars avec toi?
Non, aucun.
Dépêche-toi d'en trouver. Je vais revenir dans 10 minutes. Quand je serai armé.
Eh ouais, parce que en fait, on le voit ça tout au long du film, hein, mais et même si le shérif est aimé de tout le monde, eh ben le fait que il y a une bande de gars qui est venue le liquider, en fait personne veut l'aider et le gars il se retrouve seul au monde. Et à la fin, il est en plein désespoir. On se demande comment il va s'en sortir.
En plein soleil, en plus.
Ouais, mais le pire, c'est que tout le monde le laisse dans sa merde, quoi. En fait, il peut compter que sur lui-même. Alors sinon, on va rentrer un peu plus en détail au niveau du réalisateur et des deux acteurs principaux, hein, les plus connus et ceux qui ont fait carrière. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Fred Zinnemann pour commencer?
Alors, c'est un réalisateur et producteur américain d'origine autrichienne. Donc, il est né en 1907, mort en 1997, à 89 ans. Donc, il n'a pas eu le temps d'avoir 90. Film entre 1929 et 1982. Donc, il a fait 19 films. Le train est donc le 9e. Tant qu'il y aura des hommes, il a fait ça comme film aussi. Un homme pour l'éternité, Le Chacal.
Ouais, ça c'est pour les plus connus. Et puis ensuite, bah, ça, on le présente plus parce qu'il a fait de nombreux films, mais ça remonte quand même à des années. Gary Cooper de son vrai prénom, hein, Frank Cooper, qui lui, vas-y, présente-le nous.
Qui est un acteur américain né le 7 mai 1901 à Helena, dans le Montana. Il est mort le 13 mai 1961 à Beverly Hills, donc en Californie. C'est une figure majeure du cinéma américain des années 1930-1950. Gary Cooper est pendant ces 2 décennies un des plus grands champions du box-office aux États-Unis et dans le monde. Ses films engrangent plus d'une centaine de nominations diverses et il est personnellement nommé à 5 reprises pour l'Oscar du meilleur acteur. Il reçoit la statuette 2 fois, en 1942 et 1953. En 1961, James Stewart accepte en son nom un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et à sa mort, la même année, sonne la fin de l'âge d'or d'Hollywood. En 1999, l'American Film Institute le désigne 11e plus grande star masculine de tous les temps.
Ouais. Et bah pour finir, on a Grace Kelly qui est plus connue, enfin parce qu'elle est devenue, et donc elle est plus connue sous le nom de princesse de Monaco. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle du coup?
Donc, bah forcément, oui, c'est la mère du prince Albert. Hein.
Ouais.
Donc, elle est également donc dans Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock. Ça lance définitivement sa carrière. Le maître du suspense la dirige à deux autres reprises dans Fenêtre sur cour. Donc, et La main au collet dans Fenêtre sur cour. Il y a aussi James Stewart dedans, La main au collet avec Cary Grant. Elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province en 1955, un film que je n'ai jamais vu, mais bon, il est peut-être bien, hein, je pense, vu qu'elle a eu l'Oscar.
Bah ouais, faut regarder.
En 1956, donc à 27 ans, elle met fin à sa carrière d'actrice pour épouser le prince Rainier III de Monaco, avec qui elle aura 3 enfants, donc Caroline, Albert et Stéphanie. En tant que princesse consort de Monaco, son titre officiel, Son Altesse Sérénissime, la princesse Grâce de Monaco.
Ouais, qu'on appelle plus communément princesse Grâce de Monaco.
Voilà.
Ouais.
En
Et
tant que
puis.
princesse de Monaco, elle a engagement important pour cause humanitaire. Elle meurt le 14 septembre 1982 des suites d'un accident de voiture survenu la veille.
Donc, ouais, elle a arrêté sa carrière d'actrice pour se consacrer à toutes les causes humanitaires, quoi, par la suite. Allez, on va s'écouter un petit truc.
Vous savez ce que je viens faire ici. Je cherche des volontaires. Je prendrai tous ceux qui se présenteront.
Je ne comprends pas pourquoi vous pensez trouver des hommes ici. Franck a des amis dans cette pièce, vous devriez le savoir.
Vous avez accepté d'être volontaire pour combattre cette bande. La lutte continue. J'ai besoin de vous.
La situation était différente en ce temps-là. Vous étiez régulièrement 6 dans la police. Et vos hommes tiraient bien. Vous n'êtes plus que 2 aujourd'hui.
Vous êtes tout seul. Hervé Pil a dit qu'il laissait choir. Pourquoi? Je n'ai pas à vous donner de réponse.
C'est risqué d'être volontaire. On connaît tous trop bien Frank Miller.
D'accord. Oui, on sait bien que Miller est dangereux. C'est pourquoi je viens. Alors répondez.
Eh ouais. Et là, il n'y a plus personne au rendez-vous. Parce que, bon, c'est vrai que il flippe de se faire descendre par Frank Miller, mais bon, vu que le shérif était bien vu de tout le monde. Il pourrait quand même lui filer un coup de main, mais non. Comme quoi, ça prouve que, ami, pas ami, quand les gens ont envie d'être égoïstes, bah, il n'y a plus personne derrière.
Après, c'est pareil, Miller, il pourrait très bien venir tout seul pour faire un contre un au lieu de venir avec ses trois potes.
Ouais, mais bon, je pense qu'ils ont toujours tourné ensemble, donc.
Voilà. Ah oui, c'était la bande.
Bah ouais. Bon, sinon, il y a un truc à dire sur le titre du film.
Oui, alors le titre original du film joue sur le double sens de l'expression High Noon. Au sens propre, elle signifie plein midi, mais
Ouais.
au sens figuré, elle signifie l'heure de vérité.
Voilà.
Après, le film To Be High Noon est devenu une expression qui signifie être complètement seul avec de gros problèmes.
Ouais.
Ouais, ça ressemble bien au film, là.
Ouais. Tandis qu'en français, bah du coup, la référence au fait que le train de midi doit siffler trois coups au cas où il y aurait un voyageur qui descendrait. Mais bon, ça a été adapté pour uniquement le titre français, quoi.
Ils ont inventé la phrase, quoi, finalement.
Ouais. D'ailleurs, j'ai même pas entendu. Mais si certains arrivent à l'entendre, mais moi, malgré que j'ai fait attention et que j'ai été attentif, je l'ai pas entendu sonner trois fois le train.
C'est-à-dire qu'il fait oui, juste
Il siffle
deux
quand il
coups.
arrive,
Oui,
mais
voilà, pas
après,
plus.
une fois qu'il arrive à quai, il se met pas à siffler trois fois, quoi. Bah bon,
Ouais,
encore
faudrait
faut-il
qu'il soit à ce moment-là arrivé en quai puis faire vraiment trois coups.
que. Ouais. Et sinon, après, une petite histoire sur le casting.
Alors donc oui, le train sifflera trois fois constitue la première apparition au cinéma de Lee Van Cleef. Alors c'est vrai que
Ouais.
quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il est vachement jeune, hein.
Ouais.
Et donc il a un rôle muet en plus, il dit rien du
Bah,
tout.
il dit rien.
Il fait juste un peu d'harmonica parfois, mais bon, il
Ouais.
fait rien. Et c'est aussi le premier grand rôle de Grace Kelly.
Voilà. Bah attends, de toute façon, c'est simple, hein. Tu prends Lee Van Cleef, il est de 25. Le film, il est de 52. Il avait 27 ans. Donc,
Même Grace Kelly, quand on la voit par rapport au film qu'on connaît d'elle, là, on a du mal à la reconnaître presque au début.
Ouais. Allez, on s'écoute encore un petit truc. C'est le train qui arrive. Et là, quand tout le monde commence à entendre ça, là, les gens, ils commencent à paniquer et dans la ville, on commence à voir plus personne d'ailleurs. Tout le monde commence à se planquer. Et puis, on a surtout le shérif Kane qui commence bien à flipper.
Il cherche partout s'il y a quelqu'un qui va venir l'aider, mais
Ah ouais, mais
non.
plus ça va, plus le. Et puis bon, on le dit maintenant, on n'attend pas la fin. Mais le film, lui, il est pratiquement filmé en temps réel. C'est-à-dire que je crois qu'il est quelle heure quand le film commence?
Bah,
Les
si je ne me trompe pas, il est 10h34.
Ouais, je crois que
Enfin,
c'est ça, dans les
un
10h30.
peu avant, parce que ça commence, il y a le mariage, on ne voit pas l'heure.
Ouais.
Quand on
Mais
est.
après, c'est
Voilà,
le,
c'est.
le, le,
On voit la
le,
fin.
le, 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 le réalisateur revient régulièrement
Toujours sur
et
l'heure.
souvent sur cette pendule. Et on voit bien que, bah ouais, 10h30, 11h, 11h30, et puis après, ça commence à se resserrer. Et puis d'un seul coup, bah, midi. Et là, ouais, plus ça va, plus on voit.
Dès qu'il est 11h05, à un moment donné, on voit que ça va commencer à être chaud, là.
Ouais, puis même on le voit et c'est là que Gary Cooper joue bien le rôle, c'est que on voit qu'il commence à paniquer, quoi, vraiment. Sinon, donc au niveau récompense distinction, on doit certainement avoir pas mal de choses.
Oh non, il n'y a pas grand-chose, il y a juste l'Oscar du meilleur acteur pour Gary Cooper, l'Oscar du meilleur montage pour Elmo Williams et Harry Gerstad, Oscar de la meilleure musique donc pour Dimitri Tiomkin, Oscar de la meilleure chanson toujours pour Dimitri Tiomkin, donc qui a fait la musique, et Ned Washington pour les paroles. Le
Ouais,
film a aussi
c'est
eu
quand même.
d'autres récompenses.
Mmh.
Il a eu des Golden Globes, donc il a eu meilleur acteur pour un film dramatique. donc pour Gary Cooper. Et meilleure actrice pour second rôle féminin, donc pour Cathy Jorando.
Ouais. Et donc, une fois que le train est arrivé, qui débarque? Extrait.
Salut, Franck.
Ça va, Franck?
Est-ce que tout est prêt?
Ouais, on a exécuté tes ordres.
Et on a ton revolver. Alors, allons-y tout de suite.
Donc là, ils sont motivés, on peut dire, pour aller le flinguer.
Oh, ça donne même l'impression que sans l'attendre, ils auraient bien été butés, le shérif.
Ouais. Alors vas-y, tant qu'on y est, toi, tu t'en as pensé quoi du film?
Ah bah ça, c'est vraiment sympa quand même. Malgré que ça soit un ancien film comme ça que je n'avais jamais vu. Je pensais que ça allait barder un peu plus, si on peut dire ça comme ça, mais on est bien dans le dans l'ambiance hein, quand même, parce que
ouais. C'est vrai que ça change des autres westerns où
ça flingue sans arrêt, quoi.
Ouais, voilà. Là, on est plus un peu
pas un peu psychologique, si on peut dire, mais bon.
Ouais, puis un peu plus stressant aussi quand on voit les Midikira qui approchent, qui trouvent personne pour l'aider.
Du fait que ça commence, il se marie.
Ouais.
Déjà, rien que ça.
Ouais. Alors, du coup,
partir avec sa femme.
Parce que ses amis, quand même, alors, amis entre guillemets, hein, parce que lui, ses amis, il l'incite à partir.
Ah bah d'ailleurs, au début, ils étaient censés partir. Ils ne savaient pas encore que Frank Miller était.
Non, je suis d'accord, mais après, parce qu'il s'est dit, Miller, il va me poursuivre, peu importe où je vais, il me poursuivra. Donc, à un moment donné, il se dit vas-y, j'ai ma fierté je vais régler mon compte avec l'autre. Quoi.
Il le dit à sa femme, il préfère autant que ça se passe là. Quoi.
Ah, bah oui, de toute façon, si c'était pas là, c'était ailleurs. Donc, et puis après, il y a eu des influences et des remakes hein, avec ce film-là. On a eu. Rio Bravo de Ward Hawks en 59 avec John Wayne dans le rôle principal, qui a été présenté comme une réponse au train s'il flera trois fois. Parce que, en fait, Hawks et Wayne n'aimaient pas le personnage du shérif Kane. Et parce que, bon, il abandonne hein, son étoile de shérif. Et puis, il cherche désespérément à se faire aidé par la population, et ça a fait que le comment dire, John Wayne et Howard Hawks, ils aimaient pas ce film-là. Et puis aussi, on a bien plus tard hein, un remake qui, on peut le dire, sera le sujet de notre prochain épisode, parce qu'il y a un lien entre le train sifflera trois fois et quoi ça?
Outland, loin de la Terre.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment un remake, c'est un film de science-fiction sorti en 1981 de Peter Yams avec Sean Connery. Et voilà. Donc là, en fait... ça se passe plus sur Terre, on est dans une colonie minière spatiale et bon pareil c'est on est dans l'apathie générale et il y a pareil un homme qui se retrouve seul dans un combat injuste comme dans le train. Allez, on s'écoute un petit dernier extrait. Ouais, c'était le duel final. Alors, qui s'en sort? Qui meurt? Mystère.
Eh oui, on va pas tout raconter non plus, sinon il n'y a plus besoin de regarder le film.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais on sent bien que. Mais bon, ça fait Il y a une petite morale, hein, cette histoire-là, parce que ce qu'on peut voir dans le film, on le vit tous les uns et les autres dans la, peut-être pas dans le quotidien, mais au moins quelques fois dans notre vie. Hein. On a des amis, mais bon, dès qu'il y a des emmerdes, ils sont plus là, on les voit plus. Hein.
Puis la jeune mariée, donc qui finalement fait ce qu'elle fait, quoi. J'en dis pas plus. Hein.
Ouais, hein, c'est vrai que. Mais même, il y a le shérif adjoint, il laisse tomber. À un moment donné, parce que le shérif, il peut nommer des shérifs adjoints aussi pour lui donner un coup de main. À un moment donné, il avait trouvé un gars et le gars, voyant qu'il n'y a personne, bah, il rend l'étoile et puis il se barre.
Ouais, parce que du fait que le nouveau doit arriver le lendemain, c'est trop tard le lendemain.
Ouais, et puis on voit aussi le shérif, il fait limite du porte-à-porte pour trouver quelqu'un, mais les rues sont désertes. Il va au saloon, il va à la chapelle, mais il trouve personne. Et à la fin, c'est vrai que ça fait un combat de 4 contre 1. Mais franchement, ouais, il est sympa, ce film-là. Pour moi, il a une belle morale, une belle conclusion, une belle morale. Hein, qu'est-ce que tu veux rajouter un dernier mot sur tes impressions sur le film?
Franchement, moi, ce qui m'a plus pas touché, mais c'est le coup que fait Grace Kelly, quoi, à la fin. Voilà. J'en dis pas plus, hein. C'est aux gens qui
voient parce que film. Ouais, c'est vrai que Grace Kelly, elle est.
Elle dit, du coup, si tu vas faire ton combat contre eux, moi, je prends le train pour qu'il part à midi.
Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, parce qu'on peut, on peut le dire, ça va rien dévoiler, mais c'est une Quaker, elle. C'est-à-dire
donc, elle est contre la violence.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je savais pas trop ce que c'était, hein, les Quakers. Donc, j'ai regardé. Et c'est une société religieuse des amis et c'est un mouvement religieux fondé en Angleterre au XVIIe siècle par des dissidents de l'église anglicane. Voilà. Voilà ce que c'est. Ils sont pacifistes, quoi. Donc, elle épousant un shérif, se devait par amour, laisser tomber, son étoile parce que il tue, il y a forcément un peu de violence lors des arrestations, etc. Il faut faire la loi, donc il y a de la violence quand même. Donc elle fait un acte à un moment donné qui n'est pas en accord avec ses croyances, mais bon,
elle le fait par amour finalement. Bah, oui, on va dire plus.
Ouais. On a déjà dit trop. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je vois rien d'autre de plus. Hein.
Bon, bah écoute, c'était encore un épisode fait avec plaisir.
Et oui, bah c'est un plaisir d'en raconter ce film.
On va se quitter là-dessus alors. Et puis, on se donne rendez-vous dans Outland.
Donc, prochain film, prochain épisode dans l'espace.
Voilà, un film que j'ai pas encore vu. Mais bon, on pourra comparer entre un western et un film de science-fiction sur le même thème. C'était le mot de la fin. Et puis, on va se quitter là-dessus. Et on vous dit à bientôt. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude. Vous commencez à connaître parce que chaque entrée des réseaux sociaux, etc., c'est le mot-clé unique Archéociné. Et pour la chaîne YouTube, pareil. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur le blog archéociné.ddns.net. À bientôt tout le monde. Ciao, bye.
Salut, bon film.
Thank you.